Bonjour et bienvenue sur Radio Galère pour l'émission Psychodébat de 18h à 19h tous les jeudis. L'émission Psychodébat a été créée par Victor Hugo Espinosa qui est lanceur d'alerte et coach bienveillance. Merci à lui de nous confier cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychogéographie. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que la géographie définit notre identité ? Est-ce qu'elle définit nos émotions, notre sens du bonheur ? Comment peut-on s'approprier le territoire ? D'où vient-on et que va-t-on faire avec les gens qui vivent avec nous sur un territoire qui ne peut nous être donné? Pour traiter ce sujet aujourd'hui, parler de psychologie et de géographie, votre animatrice Virginie Sancho vous accueille et accueille avec elle quatre personnes, quatre amis pour ma part, qui sont à la fois des ministres, des rois et des coachs. Nous accueillons donc Franco Revelli qui est ministre du Renouveau de la République libre du Frioul.
Buonasera a tutti.
Nous accueillons également Eric Pringles, qui est artiste et qui est roi des îles Bermond.
Salut, en de kost, en de wind van achter.
Nous accueillons Nicolas Bermond, roi également des îles Bermond.
Bonsoir, passa par la draille.
Et last but not least, Anas El Mestari, qui est coach en père et danse et en santé mentale.
Assalamu alaikum min ta'bah al-huda.
Vous avez fait l'effort de nous dire bonjour dans bien des langues. Pour ma part, je suis née à Marseille et pourtant j'ai vécu un peu partout. Je me sens citoyenne du monde. Ça me définit et en même temps ça m'apporte un certain bonheur. J'aimerais savoir, Nicolas, à qui je vais passer le micro, si toi, la question de la psychogéographie, tu as commencé à t'y intéresser pour chercher ton propre bonheur, ou par juste par joie, ou par curiosité. Explique-nous ce qu'est ce concept.
Alors, je vais expliquer le concept, peut-être je m'introduis un peu. Alors, pour m'introduire, donc je suis Nicolas Bermond. Je suis avant tout entrepreneur et depuis quelques années, j'ai décidé en fait de récupérer une île au large de Marseille et d'y créer en fait une petite nation, ce qu'on appelle des micronations. Donc, je me suis confronté à plein de problématiques en fait. Ben, comment la récupérer, comment faire venir en fait du monde sur l'île, comment faire avoir de nouveaux citoyens, comment faire des relations diplomatiques avec les îles aussi à côté. C'est comme ça que j'ai rencontré Franco qui est en face. Donc je vais pas commencer à vous dire ma vie mondaine, mais je pensais que c'était intéressant en fait qu'on commence par ça. Donc moi la psychogéographie en fait c'est arrivé quand j'ai découvert l'île. J'étais en train de marcher au Frioul. Et quand je suis arrivé au bout du Frioul, j'ai vu un tag, le caca cartel. Et je me suis dit, putain, on est tellement dans la merde que, en gros, c'est génial ce concept et il faudrait qu'il y ait un syndicat. Et là, j'ai regardé un petit peu au large. Et en regardant au large, j'ai vu un gros rocher. Et je me suis dit, mais pourquoi ce syndicat ne serait pas sur ce rocher? Donc, j'ai commencé à regarder, finalement, comment je pouvais récupérer la souveraineté, en fait, de ce rocher. Et là, a démarré une grosse aventure. Donc, ça, c'est pour remettre un petit peu dans le contexte, en fait, de ce projet. Mais sinon, moi, ma vie, elle est psychogéographie. Je savais même pas que ça existait il n'y a pas si longtemps que ça, puisque moi, en gros, j'ai commencé à, par exemple, de découvrir des villes en marchant que à l'ombre. Donc, avec ça, je me disais, on va voir qu'est-ce qu'on rencontre, qui on rencontre sur la route en marchant à l'ombre.
Il y en a certains, je crois, qui ne marchent qu'à gauche, par exemple. On tourne tout le temps à gauche.
Exactement.
Non. Alors, on revient peut-être au point de départ, je ne sais pas, mais on peut découvrir.
Tu vois,
des
par
choses.
Exemple, aujourd'hui, je suis sur le orange. Et j'ai vu une chaise orange. J'ai dit, je vais prendre la chaise orange. Donc aujourd'hui, tout ce qui était orange, en fait, m'accompagnait en fait dans une réflexion, mais pas que dans une réflexion, dans le travail aussi, parce que d'aller bosser tous les jours, c'est déjà assez compliqué, quoi. Donc il faut mettre un petit peu d'amusement, comme on dit, de fun, parce que et en plus de ça, c'est plus intéressant. Donc moi, je l'ai vu comme ça, la psychogéographie. Je l'ai vu comme une sorte de chemin de philosophe, en fait. qui marchaient sans savoir où ils vont, discuter avec des gens.
Ça nous fait deux émotions, la joie, l'étonnement. On en est à deux déjà. Je dis ça pour Anas qui en parlera tout à l'heure.
Tout à fait. La surprise.
Et donc, en fait, j'arrive à trouver... Alors là, récemment, en fait, j'ai fait un voyage dans les Balkans pour faire des photos. Et je me suis dit, ben, je vais mettre des contraintes. Donc, je rajoute à la psychogéographie. Je me suis dit, tu as 50 euros par jour. Tu ne dois rien préparer à l'avance. Et tu vas faire ce voyage de photos juste en fonction des rencontres, de ce budget. Et c'est les gens qui vont t'amener, en fait, à ton objectif, à ton but, ce qui est beaucoup plus doux et ce qui permet d'être... Moi, je trouve que je suis beaucoup plus efficace que quand j'arrive à être dans cet état-là, parce que tu peux pas être dans cet état tout le temps non plus
De prendre ce qui vient, d'être dans la découverte, c'est ça que tu veux dire ?
Tu peux
pas...
La
créativité du chemin.
C'est un état d'hyper émotionnel, d'hypersensibilité. Donc en fait, il faut réussir à le gérer, de pas basculer de l'autre côté trop dans l'émotivité. Et aussi, quand tu es en voyage, que tu sais pas où tu vas dormir, etc., il faut que tu aies quand même tu sois un petit peu sur tes gardes. Donc en fait, c'est un savant mélange, quoi, pour pouvoir utiliser la psychogéographie.
Ceux qui voudraient nous appeler, les auditeurs, qui voudraient nous poser des questions ou nous parler de leur sens, de leur rapport à la géographie et de ce que ça leur apporte dans la vie, vous pouvez nous appeler au 04 91 08 28 10. On vous prendra en deuxième partie d'émission après 18h30. Je pose la question à l'île d'en face, au voisin, Franco Revelli. Donc, tu lui avais fait hello depuis ton île?
Oui, j'ai fait. Je lui ai envoyé un texto, non pas un texto, un mail assez officiel en fait, mm-hmm. en lui disant parce que j'avais identifié que Franco était le dernier représentant en fait de la République libre du Frioul. Il y avait des gens qui avaient essayé de s'accaparer le projet.
C'était le représentant officiel, le
voilà,
ministre.
Voilà, lui. Le vrai représentant, parce que j'avais vu les autres.
Oui, on a un problème de son sur ce micro. Le représentant, j'ai envie de te demander, Franco. Toi, quelle émotion a suscité la création de la République libre du Frioul ? Quelle était l'intention première ?
Alors, c'est assez particulier parce que moi, je suis ministre du renouveau de la République libre du Frioul depuis 2009. Donc, ça fait presque 20 ans que je suis ministre. Et le début, c'était assez simple parce que c'est, comme il disait Nicolas, c'est question de marche, en fait. En fait, je vais marcher à Marseille, je monte à Notre-Dame-de-la-Garde et je vois cette île en face. Je me dis, c'est étrange, en fait, regardez tous ces bâtiments partout, cette île sauvage, là, il n'y a rien presque. Il doit y avoir quelque chose de particulier. Donc, je cherchais un sujet pour un documentaire et j'ai découvert l'histoire de la République libre du Frioul, qui est déjà morte à l'époque. Donc moi, je vais recontacter le fondateur, les ministres, et donc pour raconter cette histoire qui était déjà sous terre, en fait.
Mais elle était morte depuis quand ?
Une dizaine d'années. D'accord. Parce qu'en effet, elle a duré pas beaucoup d'années, entre fin 90 et 2000. Donc le ministre convoyeur du Verbe, Enzo Maio, qui est le créateur de la République libre du Frioul, m'a nommé ministre du Renouveau parce qu'en effet, j'ai amené le renouveau de cette République libre du Frioul. Le principe est simple et ça se marie bien avec la psychogéographie parce qu'en effet, il y a un président qui s'appelle Égrégore le Virtuel. Il a un mot, il parle. Il faut juste le capter dans l'air, n'importe où on est. Et le message est le suivant, c'est ne pas se prendre au sérieux et détourner tout ce qui est une logique d'État, une logique territoriale, une logique lourde, sérieuse, pour en faire une rencontre où on se voit ensemble, où on peut discuter. Donc c'est des rencontres à 1000 ministres, tout le monde est ministre. Donc on a un gouvernement qui passe de la droite à gauche, au-dessus. Voilà, ça c'était le principe de la République libre du Frioul. Donc, et moi, en tant que ministre de nouveau, j'étais là pour porter cette idée à la surface.
Pour qu'elle revienne, pour s'amuser. Tu dirais qu'il faut s'amuser, c'est un amusement ou ne pas se prendre au sérieux ? Est-ce que ça nous empêche d'être sérieux ou on peut faire les deux en même temps ?
C'est très important de ne pas se prendre au sérieux pour la République libre du Frioul parce que la naissance était... c'est la métaphore de l'enfant qui joue avec une boîte d'allumettes. et le père arrive et lui dit « Non, avec ça, tu peux mettre le feu ». Et donc, c'est bloquer une créativité que l'enfant a, que l'être humain a, et c'est en se prenant au sérieux, on bloque beaucoup de créativité. Si on regarde la situation internationale aujourd'hui, on parle de géographie, on voit les gens qui se prennent au sérieux, et on voit les conséquences,
les résultats.
Donc peut-être qu'il faudrait se prendre un peu moins au sérieux.
C'est certain. Alors la créativité, tu as lancé le mot, ça me permet, merci, de donner la parole à Eric Pringles. Pringles ou Pringles ? Je me trompe à chaque fois que je prononce ton nom, corrige-moi s'il te plaît.
Pringles.
Pringles. Et Eric, alors la créativité, je ne sais pas si on peut dire que c'est ton domaine, c'est ton dada, c'est ta passion, c'est ta personnalité, c'est ton bonheur. Explique-nous comment toi tu relis créativité avec psychogéographie et qu'est-ce que tu viens faire dans cette réflexion et ce projet.
Disons que moi je suis bruxellois d'origine, donc la phrase que j'ai dite au début c'était Salut de Kosten de Van Achter, qui est un mélange de salut, ça vient de salud de Espagne. Endekost, Endewin Van Achter, bon vent arrière en flamand. Il faut savoir que la Belgique a été envahie régulièrement par les Espagnols, par la Hollande. Et c'était une zone tampon dans laquelle les grandes puissances se sont arrangées pour créer en fait un espace pour commercer sans les guerres de religion. C'est une espèce de création d'état-nation from scratch. On est allé chercher une dynastie, on est allé faire le tour de toute l'Europe en disant « Est-ce que vous voudriez pas ce bout de terrain ?» Et il n'y a personne qui a accepté, il y a juste une dynastie qui a accepté. Et donc de là est née la Belgique, avec une petite histoire de un peu plus de 180 ans.
Et tu es en train de dire que la Belgique est une micronation ?
Elle est une micronation comparée à la France en tout cas. Et donc elle est devenue par la force centre de l'Europe, même un peu par la force, puisqu'il y a eu un fait accompli qui a installé les institutions dans ce territoire. Et c'est à partir de là que ma créativité et ma multinationalité, puisque moi je suis d'origine à la fois écossaise, suisse, née dans cette espèce de melting pot, donc c'est-à-dire tout et rien. C'est à partir de ça que j'ai cherché un peu une identité, un territoire et ma psychogéographie à moi. Former l'architecture en fait. J'ai commencé à m'imaginer des territoires, avec l'internet aussi, il y a des choses qui sont arrivées qui ont permis, comme dans le cas des îles Bermond, de créer des nouveaux territoires. Elle s'est exercée par exemple, dans la création du logo de l'île 2004, qui a été une commande de Didier Fusillé pour la capitale de la culture en 2004.
À Marseille.
Non, à Lille.
Ah, j'ai pas entendu. Ah, capitale était... 2004, oui, ouais. 2013. Capitale de la culture, c'est toujours Marseille pour moi, pardon.
Et qui était, dans la commande, était les anneaux de vitesse. Et je trouve ça important d'en parler parce que, en fait, le TGV a modifié le territoire. Et donc, quand on parle de territoire, on parle d'espace, on parle de temps. Et donc, il y a eu une refonte de la psychogéographie européenne à l'aube des moyens technologiques qui sont apparus... avec l'internet et le TGV, c'est ce qui m'a poussé à venir m'installer à Marseille. C'est ce qui a rendu possible mon installation à Marseille, en fait.
La vitesse.
C'est en tout cas la technologie, c'est le TGV et internet qui a rendu possible. Avant ça, il fallait attendre la retraite, d'être pensionné, comme on dit en Belgique, pour venir s'installer dans le sud. Et moi, j'ai décidé, à l'aube de ces technologies-là, de venir m'installer entre 2000 et 2004 à Marseille.
Pour réfléchir sur la psychogéographie, notamment avec Nicolas.
Voilà, et donc juste pour terminer, ce que je voulais aussi dire, il y a ces technologies et puis il y a aussi des forces qui sont invisibles. Et qu'est-ce qui a fait que je suis venu installer à Marseille ? C'est en fait une relation centrifuge par rapport à Paris qui était commune entre Bruxelles et Marseille. Et d'ailleurs, né un autre projet en parallèle des îles Bermond, puisque j'ai rejoint les îles Bermond, est né un projet qui s'appelle Big, c'est les MRS, l'initiative de deux architectes marseillais qui sont partis vivre à Bruxelles. Et donc, qui est une autre nation, ou on va dire une autoroute binationale entre Bruxelles et Marseille. Voilà, donc après, bon, autour de ça, il y a eu, donc, j'ai oublié de dire que j'ai travaillé aussi donc, le projet qui m'a amené en fait à Marseille, avant tout, c'était un projet de transmission du territoire, qui s'appelait Walkabout Talk, dont j'étais l'initiateur et le situationniste. Donc c'était un projet basé sur à la fois le Stalker de Tarkovsky, donc qui est justement une exploration d'un territoire vivant. C'est encore un autre aspect de la psychogéographie.
D'un territoire vivant de sa biodiversité.
Non, c'est un territoire qui est dans le Stalker de Tarkovsky. Il y a le territoire est vivant. Il faut échapper au piège qu'il tend.
Au déterminisme, donc, éventuellement, ou au piège, d'accord.
Et donc l'histoire, ce sont trois personnes qui rentrent dans une zone qui est interdite. Il y a un écrivain en quête, en mal d'inspiration, un scientifique et un passeur qui s'appelle le Stalker. Et donc le Stalker emmène ces deux personnes dans la zone, chacun essayant d'y réaliser ses souhaits. Le scientifique, c'est pour poser une bombe pour éliminer le mythe. Et l'écrivain pour y retrouver l'inspiration. Donc ça, c'était une des inspirations de ce projet Welcome to Stalk. Et l'autre est un rite aborigène australien, qui est que donc les aborigènes australiens, n'ayant pas la cartographie à leur disposition, ont cartographié en chanson le territoire à travers ce qu'ils appellent des song lines. Et la mère d'un enfant, entendant pour la première fois battre le cœur ou bouger son enfant dans son ventre, va aller chez les anciens et demander à quelle intersection de champ elle se trouve lorsqu'elle a entendu bouger son enfant. Et elle va ensuite enseigner ces chants à son enfant, faisant ainsi de chaque individu, de chaque aborigène, un garant d'un urbanisme chanté, et donc d'un territoire, d'une psychogéographie cartographiée, chantée. Donc c'était un peu les deux aspirations qui m'ont amené, qui ont fondé les racines de ce projet, qui m'a amené à Marseille. Et par la suite, j'ai développé d'autres projets, comme le OFF de Marseille 2013 et ISP Camp.
Je vois tout à fait en quoi tu peux apporter ta pierre à l'édifice, si j'ose dire, au projet des îles Bermond. C'est passionnant de voir comme l'art peut transcrire une certaine réalité géographique qui pourrait toucher l'être humain. Par toucher l'être humain, j'ai envie de parler de transmission, de rites, de transmission et d'inspiration. C'est vrai que le territoire nous inspire. On ne pense pas, peut-être qu'on n'a pas les mêmes émotions et on ne pense pas pareil selon qu'on a l'ouverture vers la mer. Quand on est dans une ville comme la nôtre qui est une thalasso, aidez-moi, vous ne connaissez pas le mot en grec qui veut dire ville de la mer ou démocratie de la mer? Thalassocratie, je l'ai. Voilà. On a dit qu'on se prenait pas au sérieux, alors c'est pas grave. Alors je vais dire plutôt ville au bord de la mer, ça passe mieux que thalassocratie. Et on ne pense pas de la même façon selon qu'on est entouré de la nature, selon qu'on vit dans une urbanité très forte, bétonnée, pourquoi pas. Et donc on va peut-être avoir des émotions suscitées qui sont différentes. Et dans cette jungle d'émotions suscitées, nous aurons besoin d'un coach en santé mentale. Anas, qui est là à côté de moi, peut-être que tu pourrais nous expliquer toutes ces interventions que nous avons entendues, tous ces mots sur la psychogéographie, ce que ça t'inspire, ce que tu as pu entendre comme émotion, et comment tu nous proposes de les aborder, de les gérer, et dans quel but? Est-ce que c'est dans le but du bonheur de chaque individu? Est-ce qu'on peut jouer sur ces émotions-là avec le territoire?
Alors, le territoire, quelle belle notion qui est empreinte d'interrogation, de sens. Je suis interpellé par un héritage de naissance. Je vais même dire un héritage du catéchisme que j'ai pu recevoir. Il y a un Coran, il y a un verset coranique tout particulier auquel je vais vous dispenser de la version arabe, quoique. Mais ce verset consiste à dire « Et nous vous avons fait de peuples et de nations différentes pour que vous vous rencontriez, et nous avons fait la terre vaste pour que vous la défrichiez. » Parcourez-la. Rencontrez-vous et nourrissez-vous de vos différences, car le plus valeureux parmi vous auprès de Dieu, sera le plus pieux, dans le sens éclairé. Et donc, il voyage, rencontre, et qui rencontre, s'éclaire. D'où la nécessité d'initier à ce que l'on appelle l'élan de vie, qui consiste à aller chercher cette dynamique qui nous pousse à parcourir et à défricher et à aller rencontrer l'autre à travers le territoire, qu'il soit d'ailleurs à l'échelle insulaire ou à l'échelle du gigantisme de la métropole à laquelle elle est adossée, ou du pays, ou du continent, ou dans l'immensité de l'univers. Pour ma part, j'ai compris assez tard que les émotions étaient au cœur de cette psychologie qui nous anime. Il y a une méthode. On va rentrer encore dans les concepts récents de la nouvelle psychologie, qui ont développé une méthode que j'aime bien, qui s'appelle OSBD, qui consiste à d'abord s'initier à observer les faits, par la suite exprimer les sentiments qui en résultent, afin d'exprimer aussi les besoins associés, et tout ça pour formuler une demande. Et donc, il y a quatre grandes postures qui sont régies par nos émotions, que sont la passivité, où on va être dans une forme d'évitement. Ça sera aussi l'agressivité, qui va être fondée énormément sur la colère. On pense très peu à ce dernier, qui est la manipulation, où on va utiliser les sentiments de la personne en face de nous pour venir satisfaire nos propres fins. Mais le Graal, qui est la quête de tous, est l'assertivité, qui est comment exprimer clairement ses pensées en mettant des faits au cœur de ses interactions. Et c'est la posture vers laquelle nous tendons dans notre rapport à l'autre, qui est la plus sincère, la plus vertueuse, et qui repose sur une communication non violente.
Et ça m'interroge, quand tu rencontres, est-ce que la rencontre avec l'autre dépend complètement du contexte, du paysage donc? Est-ce qu'il y a des paysages qui sont plus propices que d'autres à la communication non violente?
Le tout est de savoir accueillir ce que nous donnent ces paysages et cet environnement. Qu'il soit d'ailleurs sonore, qui va invoquer finalement tous les sens, et pouvoir lire en soi ce que cela fait émerger comme émotion. Donc ça nécessite forcément un temps de réflexion, ce que l'on appelle l'accueil des émotions. Et au cœur de tout ça, le fait et essayer de faire en sorte que le principe qui est autour du fait soit toujours devant la personnalité. Et c'est comme ça que l'on tend vers une posture dite assertive, de communication non violente, et être de fait moins dans le jugement.
Merci pour ce verset, cette belle lecture déjà, et ton ton tout à fait apaisant dans un premier temps, qui illustre parfaitement ce qu'on va pouvoir rechercher dans ce type de projet. J'aimerais demander à Nicolas, au roi Nicolas qui est à côté de nous, s'il a pensé, avec les autres rois et reines des îles Bermond et de ce projet de micronation, donc je rappelle, c'est une île qui est au large du Frioul, l'île Bermond, que j'ai eu la chance d'aller voir lundi dernier, donc émerger des eaux. J'aimerais savoir si tu as pensé à des manières de communiquer, si ton projet implique une communication bienveillante, si tu penses à des lois, tu penses à des lois contre l'individualisme, ou comment va se construire au fur et à mesure cette communauté d'idées, de créativité et de savoir. Voilà, quelles sont tes vues? Et puis je demanderai ensuite les vues d'Éric sur le même sujet. Et puis on ira chercher le témoignage de l'île d'en face, la République libre du Frioul.
Alors, déjà, je voulais rappeler qu'on a notre propre constitution, hein, parce que là, on entend les rois, les reines et tout. C'est pas du tout une monarchie, hein, notre truc. Hein, c'est une monanarchie. Donc je vous invite à aller sur notre wiki, hein, le wiki des micronations à la Bermond Island, pour voir de A à Z en fait de ce qu'on fait, parce que voilà, on n'a pas vraiment le temps de se partager. J'ai pas envie de bouffer la parole de mes voisins qui sont érudits dans leur domaine. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est une monanarchie. Donc on a des rois et des reines uniquement. Pas de citoyens, pas de bas peuple, rien. Tout le monde au même niveau. Et pour ça, en fait, on a réussi aussi à travailler en fait sur une plateforme technologique qui pourrait en fait se passer de nos gouvernants et de tout le système qui coûte peut-être de l'argent. Donc ça s'appelle les DAO. C'est des organisations autonomes et décentralisées. Donc en fait, là, tout ce qu'on fait, enfin tout ce qu'on voit à la télé, au Sénat, aux assemblées, etc., pourrait passer dans une plateforme qui serait utilisée avec la blockchain, qui serait du coup moins coûteuse, beaucoup plus sûre, hein, parce qu'il n'y a pas de corruption sur la blockchain, hein, enfin pour le moment, hein, tant qu'il n'y a pas l'énergie quantique ou...
Attends, on fait un pas de recul, on essaye de ne pas perdre les auditeurs qui ne nous ont pas encore appelés. Alors je rappelle que si vous avez des questions parce que vous n'avez rien compris ou parce que vous avez un avis à donner sur ce que nous venons d'expliquer en psychogéographie sur notre partage, vous pouvez appeler le 04 91 08 28 10. Et oui Nicolas, je t'ai coupé la parole parce que je voulais que tu nous rappelles le lien entre la psychogéographie et d'un seul coup le numérique. L'univers du numérique, c'est un autre territoire, c'est un territoire à conquérir?
Très bonne question, Virginie. en fait, le lien, il est simple, c'est la dérive. En fait, tu dérives un projet. Moi, je suis entrepreneur, donc ce que j'ai appris à faire, c'est laisser dériver en fait les projets, pour aller un petit peu plus loin que ce que tout le monde fait. Quoi. Maintenant, quand on va être confronté à des intelligences artificielles, je sais pas comment dire, il faut trouver d'autres techniques, quoi. Et la dérive et peut-être ou le vagabondage même dans les affaires est une très bonne chose, que je pourrais même former des gens à ça, hein, s'ils étaient intéressés. Mais pour revenir à ce que je te disais en fait sur notre constitution, ce qui est intéressant. La psychogéographie, c'est intéressant, mais c'est Guy Debord. Enfin, et il y avait un mouvement en Angleterre, en fait, qui a en amont travaillé sur ces sujets. C'est très intelligent, c'est très artiste. Moi, ça m'a plu, ça a résonné, mais c'est pas du tout fonctionnel. Moi, je fais que du fonctionnel. Moi, je sais pas, j'ai dû monter peut-être 7 ou 8 entreprises. Là, je me crée une île, on ouvre une ambassade. Mais je fais ça avec la psychogéographie, quoi. Mais ce que je veux faire, c'est changer les choses, quoi. Je suis pas juste là pour faire joli, être payé par des mécènes ou par des lobbyistes, quoi.
Bon, retiens ça. On va essayer de trouver quel est le but de tout ça, parce que tu me dis que tu fais des choses fonctionnelles. Donc, il y a un chemin. Il y a une recherche derrière. Alors, soit de bonheur, soit de construction collective. On en parlera en deuxième partie d'émission. Il est 8h29. On va lancer une musique qui a été choisie. Est-ce que collectivement ou imposée, je ne sais pas. C'est à nous de se le dire. Non, on avait une liste et on a tous choisi la musique C'est normal de Brigitte Fontaine, Areski Balkacem. Voilà. Qui, Éric, peut-être tu peux nous expliquer cette musique. Pourquoi elle est dans la playlist de la psychogéographie?
Je pense qu'elle incarne plusieurs états en même temps, en fait. Il y a donc cet état considéré comme normal et l'état anormal, donc il y a un instant suspendu entre le status quo et l'effondrement, et tous les deltas de perception et les inquiétudes par rapport à cet état. Je pense que c'est une chanson qui pourrait résumer un peu peut-être la sidération et en même temps certaines attitudes et certaines émotions que pourrait. Donc il y a un dialogue entre Areski et Brigitte Fontaine sur le contrôle des émotions. Voilà, je pense que ça peut incarner peut-être un état présent.
Et c'est normal, on l'écoute.
la 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique, ouais, suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah,
tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
la la. La, 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 la,
non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais.
Ouais, la 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte? Tu es fatigante.
Pardon.
Non. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais,
le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tient.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
Bienvenue sur l'émission Psychodébat, tous les jeudis de 18h à 19h, et c'est Virginie qui anime l'émission aujourd'hui, parce que mon ami Victor Hugo Espinosa me l'a prêté. Merci à lui. Nous étions donc plusieurs autour de la table sur cette émission pour vous parler de psychogéographie. La psychogéographie, l'idée de utiliser le territoire ou se l'approprier, rêver avec et créer une identité tout seul ou à plusieurs à travers le territoire que l'on parcourt ou le territoire que l'on invente. Et ça nous a fait émerger une question, c'est-à-dire quelle est la passerelle entre le réel, le territoire sur lequel on marche, qu'on foule réellement, et le virtuel. J'ai bien compris que dans les projets qui nous ont été présentés dans la première partie de l'émission, il y avait une part de réel, des îles ou des territoires qui existent réellement, et puis toute une construction d'outils numériques pour en parler, pour rêver, pour travailler à plusieurs. Et donc j'ai envie de demander à Franco, qui est ministre
du renouveau.
Du renouveau, merci, je l'ai pas depuis le début. Ministre du renouveau de la République.
J'ai pas l'habitude d'inviter des ministres ici.
Non, j'ai pas, c'est pour ça. Il faut qu'il y ait plus de ministres qui viennent. Dis-nous, quel est le lien entre réel et virtuel pour la République libre du Frioul?
Alors, c'est très simple, parce que nous avons un président qui s'appelle Égrégore le Virtuel, et nous avons un ministre convoyeur du Verbe. Le ministre convoyeur du Verbe, il ne fait que attraper les mots de notre président Égrégore le Virtuel et les rendre, les matérialiser sur place. Donc, il l'a fait, dans ces cas-là, il y a, bon, entre fin 90 et 2000, au fort de Brégantin, sur l'île du Frioul. Donc, il a matérialisé les mots, la pensée de Grégoire le Virtuel. Mais Grégoire le Virtuel, c'est un président qui reste toujours actif. Ça nous coûte cher, c'est ça un problème. Un peu moins cher des présidents français qui, quand même, ils vont à la retraite et qui sont
cher, très chers.
Parce aussi.
Qu'on paye le nom de domaine, on paye. Qu'est-ce qu'on paye?
Non, ça nous coûte très cher dans le sens qu'il faut toujours faire un effort. C'est un effort intellectuel. Il faut toujours. C'est essayer de le capter, de se synchroniser sur ces mots. Et ces mots, comme je dis, c'est le message principal de la République libre du Frioul, qui est un message qui invoque la relation avec les autres, de faire les choses ensemble, de discuter, de partager le pouvoir qui, dans ces cas-là, existe pour tout le monde, parce qu'on est tous des ministres.
Donc, c'est un président qui est composé de plusieurs personnes, c'est ça un égrégore. C'est une personnalité composée de plusieurs esprits.
Tout à fait. Alors,
qui prend sa propre indépendance. Donc, c'est la caractéristique de l'égrégore, c'est de devenir indépendant des personnes et de pouvoir agréger de nouvelles personnes.
Dans le documentaire, Égrégore le Virtuel, il est capté. Moi, je me balade avec une antenne sur le Frioul. C'est parce que je capte cette voix qui, au final, c'est le ministre convoyeur du Verbe, qui nous raconte rien que l'exemple de la création de la Constitution de la République libre du Frioul, donc du fait d'avoir résumé les codes civils et les codes pénals dans un seul mot. Et je ne peux pas dire ce mot-là, parce que normalement, je questionne les gens qui sont autour de moi et je leur demande de retrouver ce mot. Imaginez les codes civils et le code pénal dans un seul mot. Lequel serait bien pour vous?
Sinal, le code sinal.
Non, c'est pas
on
là.
Peut faire des mots valises.
En fait, il y a une seule loi qui amour. Fonctionnerait. Regardez bien et pensez-y.
Amour.
Et mais j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me suis dit, est-ce que l'amour?
Non, parce qu'au final, l'amour, ça peut dégénérer. On a des.
Ça peut dégénérer. Ouais. Ouais, non,
c'est pas l'amour.
Comme ça.
Autonomie.
Autonomie.
L'autonomie, ça pourrait nous pousser à l'individualisme.
Mm-hmm. Eric, je crois que toi, tu as une belle expérience au niveau du numérique. D'ailleurs, tu donnes des cours aussi. Tu es un artiste sachant et apprenant et aussi enseignant. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'appropriation du numérique comme espace de création, espace de collectivité?
Ce matin, je donnais cours de figital, donc c'est un terme un peu nouveau, très marketé, qui est donc comment on peut articuler le digital et le physique, et comment les deux ensemble peuvent non pas s'additionner mais se multiplier. Moi, mon expérience là-dedans, elle est d'avoir par exemple un peu comme Nicolas l'a fait avec les Gilbermont, d'avoir hacké ou anticiper le devenir de la capitale de la culture à Marseille, l'avoir déposé avec Martin Carrez et Antonin Doussot les noms de domaine et la marque commerciale, et d'en avoir fait un média, ensuite une plateforme d'appel à projets, et ensuite avoir réalisé des projets dont il explique. Donc en résumant le chemin parcouru entre les deux, il y a eu la conversion d'un domaine, d'un nom de domaine en domaine. Et ça explique bien aussi je pense la quête qui nous rejoint nous tous autour de la table, c'est cette idée d'utiliser d'abord le virtuel comme une flèche, la technologie comme une flèche qu'on va projeter. D'ailleurs, il m'est venu l'idée de
de refaire un lien avec le stalker où en fait dans la zone
c'est le projet dont tu parlais tout à l'heure. Ouais,
ouais. C'est surtout d'abord un film de Tarkovsky avant que ce soit le projet. Dans ce film en fait pour donc déjouer le territoire, ils ont entouré un écrou d'un foulard blanc et ils jettent cet écrou dans le territoire. Et là où l'écrou tombe, il se déplace. Et ça de manière complètement erratique. Donc, c'est une manière.
Raon faisait un petit peu pareil.
Voilà. C'est une manière de déjouer le territoire. C'est une manière de dire qu'en fait, la destination n'est pas l'important, c'est le chemin qui l'est. Et l'errance aussi. Donc là, on va pouvoir retrouver pas mal de recherches, justement, et de Il y a d'ailleurs l'école des marcheurs à Marseille, donc dont est né le GR 2013 et le bureau des guides. Ils sont dans cette école artistique là de la marche comme acte artistique.
C'est un peu la figure du flâneur aussi. Alors on peut être un flâneur en ville et un flâneur numérique.
Voilà. C'est, on va dire, laisser flâner les idées pour qu'elles germent et qu'elles forment une nouvelle utopie, qu'elles créent un nouveau monde. Ça aussi, je pense que c'est les choses qui nous relient. C'est comment on va pouvoir créer un nouveau monde ensemble qui est meilleur, parce que les mondes, ils s'érodent, les mondes se pervertissent, se corrompent, et il faut, et de tout temps, il a toujours été question, on va dire que c'est un phénomène naturel, de les réinventer. Et d'en créer de nouveaux et de faire en sorte que d'autres personnes rejoignent l'autopos.
J'ai envie de demander à Anna si le fait de flâner, est-ce que ça se rapproche d'une émotion ? Est-ce que le fait de flâner ou la flânerie va nous amener forcément à un projet qui sera bon ? Est-ce qu'on doit parler de bien et de mal dans ce type de projet ? Est-ce qu'il est possible d'en parler ? La question vaut son pesant d'or, Anas. Je suis navré, tu as la plus dure question de l'émission.
Alors, je m'y jette. Donc, flâner, le rapport, quelque part, à la découverte, à la marche, au lâcher prise. Moi, j'y vois un aspect qui pourrait être très vertueux, puisque flâner permet de ramener du temps et de l'espace de réflexion afin de faire émerger la capacité d'identifier, de mettre en sens ses propres mécanismes psychophysiques. Ça veut dire, en prenant l'exemple, s'embaumer de senteurs dans un marché aux épices, s'embaumer au champ et ça me rappelle un bout d'histoire que je raconte souvent à mes enfants, qui est l'échoppe de ce fameux épicier Mahmoud qui vend ses poudres colorées et qui donc puis sans ménagement ces épices là, cardamome, nigel et poivre du Kérois, sa machine les broie. Vient enfin l'instant précis que la cliente espérait. Un nuage léger remonte du sachet, juste avant d'y avoir jeté sa signature. Un bouton de rose de Damas, trois pincées de mon Ras el Hanout dans votre tagine et dans votre maison, c'est l'amour jusqu'au mois d'août. Donc, les ponts sont tout à fait possibles.
C'est magnifique parce que tu viens de nous prouver en action le lien entre le réel et le virtuel, puisqu'on a senti toutes les odeurs dont tu as parlé. Bravo. Tu as répondu à la question de manière tellement plus efficace et poétique que ce que je n'imaginais.
Et donc, d'une pincée de Ras el Hanout, on peut être sur la voie de l'amour jusqu'au mois d'août.
Très bien. L'amour, c'est si on a réussi la cuisine, c'est la bonne tambouille.
Ça fait partie d'une des recettes du grand champ complexe et savant mélange d'un petit peu de ceci, un chouïa de cela.
Très bien.
Si je peux rebondir, ça me fait penser, je vais rebondir sur cette histoire d'épices. J'ai l'habitude, souvent je dois un peu argumenter ou je débat, on va dire, avec des gens qui, voilà, qui voient le commerce d'un mauvais œil. On a Nicolas qui est entrepreneur avec nous. Et voilà, c'est toujours parfois difficile de défendre certaines attitudes. Et il y a une histoire que je raconte souvent, qui est cette histoire de cette personne qui part de son village pour aller vendre des épices à 2000 km de chez lui, et qui va traverser une première fois tout seul le désert, puis qui va revenir l'année suivante avec 3 chameaux, et l'année d'après avec une dizaine d'autres personnes, puis il va y avoir quelqu'un qui va ne pas continuer l'aventure et qui va s'arrêter à la rivière pour aider à traverser les autres. Et l'année suivante, il va se marier, on va créer des chansons pour son mariage. Et ben, 500 ans plus tard, il y a une ville à cet endroit. Et donc, c'est ce que je dis toujours sur voilà, la beauté de l'exploration. Peu importe la motivation, le commerce en est une. Du moment qu'après vienne le social, vienne la culture, vienne quelque chose qui va venir le rendre beaucoup plus humain. Mais ne pas s'opposer à cette force-là qui a aidé justement à parcourir le monde et à créer les villes, à créer et à aussi initier la culture et les arts.
D'ailleurs, donc pour ne pas s'opposer, pour créer le vivant et lier le réel à l'irréel, je sais, Nicolas, que nous avons donc reçu une invitation pour une inauguration d'une ambassade des îles Bermond ce samedi. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire ce qui s'y passera, qui y est attendu et peut-être quel égrégore souhaites-tu créer ou souhaitez-vous, puisqu'il y a plusieurs personnes à l'origine de ce projet?
Oui. Déjà, pour revenir sur flâner, la dérive, en fait, tout ça, c'est important pour créer le nouveau. Donc, je rebondis sur les belles paroles de mes amis. En fait, on doit créer du nouveau, puisqu'on est un petit peu en presque quasi fin de civilisation. On va vers une nouvelle. On a beau se dire tous les jours je vais bien, tout va bien, ben non. Donc c'est des moments qui sont hyper intéressants, à part si on est angoissé tous les jours de ce qui se passe.
Mais ce qui n'est pas ton cas ou ce qui est ton cas? Ta création part de l'angoisse?
Non, tu
m'as parlé de joie au début de l'émission.
Non, moi je suis pas d'angoisse, moi je prends la vie comme une pièce de théâtre en fait, assez dramatique, où de toute façon on finira tous morts, donc il faut prendre un petit peu de recul.
L'envoler.
Oui, sur le long terme. Tout le monde, le soleil n'existera plus. Moi, ce que je dis, c'est ça, c'est flâner, dériver, et c'est ce que je dis, et c'est là où j'aime le courant situationniste de la psychogéographie, mais moi, je pense qu'on doit créer les nouvelles organisations, les organisations de demain. Qu'est-ce que c'est qu'une association, en fait, où on n'aurait pas le trésorier qui est responsable de tout? Qu'est-ce que c'est et en fait qu'un chef d'entreprise qui voudrait faire plus coopératif, parce que là les SIC, les coopératives, c'est assez restreint, quoi. Donc en fait, je pense qu'on doit recréer en fait l'ensemble des organisations, ça c'est mon point de vue, hein, pour pouvoir atteindre en fait le nouveau monde entre guillemets, quoi. Et ce côté et là dans mon expérience en fait de Lille, j'ai eu de l'émotion en fait sur ces îles, et de ça j'ai construit une communauté. J'ai fait le festival des micronations à Marseille, où j'ai reçu toutes les micronations en fait, enfin, pas toutes, mais
il y en a dans le monde entier, c'est intéressant.
Oui, il y a 400 micronations dans le monde entier, mais j'ai reçu aussi tous les plus grands experts de la blockchain, en fait, qui sont venus voir si c'était possible de mélanger des micronations et de la technologie pour créer ces nouvelles organisations. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est de quelque chose qui est complètement virtuel, de comment on crée du réel. Et bon, ne serait-ce que déjà avec la micronation, les gens qui en parlent, les pêcheurs de Marseille qui me disent je suis allé pêcher près de ton île, mais là en fait on a l'ambassade. Donc
l'ambassade, c'est un lieu différent de l'île.
Exactement, c'est l'ambassade à des îles Bermond à Marseille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'ambassade? C'est simple, on va accueillir les nouveaux citoyens, s'il y a des nouveaux citoyens qui sont intéressés. On va faire les repas de l'ambassadrice aussi, hein, parce qu'on a une ambassadrice, en fait, qui est éphémère, mais c'est ça qui est bien, parce que c'est toute la force de ce projet, c'est l'horizontalité. C'est ça qu'on ne sait plus vivre.
C'est passer la main.
C'est passer la main. L'ambassadrice tient d'un événement. L'événement d'après, on a trouvé une nouvelle ambassadrice qui va mettre, en fait, comment elle voit, en fait, ces nouvelles organisations dans la constitution. Elle aura ce pouvoir. Elle sera marquée. Elle aura fait peut-être 6 mois et elle aura peut-être apporté, en fait, beaucoup, en fait, on pourrait dire cette micro-organisation. Moi, je dis, on crée des micro-mondes. Donc voilà, moi je trouve que non, il faut être optimiste en fait, il faut se permettre, il faut oser.
Oser.
Et proposer.
Je l'ai écrit là, raisonner, oser, proposer. Il y a des outils à créer encore, c'est beau en tout cas.
Voilà, donc l'ambassade, imaginez. C'est sur invitation. Hein. Mmh. Donc, si vous connaissez des gens qui sont autour de cette table-là, pourront vous inviter. Vous pouvez me contacter aussi. Moi, c'est Nicolas Bermond. Vous imaginez bien qu'en tapant mon nom dans Google, vous trouverez tout ce qu'il faut.
En concernant cette inauguration de l'ambassade, où je sais qu'il y aura également un vernissage, plusieurs expositions.
Trois vernissages.
Et puis un concert.
Un concert de violoncelle. Et de chant.
Voilà. Très bien. Et alors, j'ai une question à vous poser à chacun pour aller dans l'imaginaire qui pourrait déboucher sur du réel, pourquoi pas. Je voudrais demander à chacun quelle serait la première mesure que vous mettriez en place au sein d'une micronation, que vous en fassiez déjà partie ou pas, dans l'espoir de rendre, soyons heureusement naïfs et naïvement joyeux, dans l'espoir d'être plus heureux, de rendre le monde plus heureux. La première mesure mise en place pour toi, Franco.
Oui, alors moi j'ai une question ouverte quand même, c'est la question du mot qu'il faut trouver pour la Constitution et je vais vous aider. En effet, ces mots, c'est le respect, parce que quand vous avez ces mots-là, vous n'avez plus besoin de loi. Et par rapport à ta question que tu viens de me poser, ben c'est simple, je l'ai déjà dit, la première mesure qu'on a mis en place à la République libre du Frioul, c'est de ne pas se prendre au sérieux.
Première mesure, ne pas se prendre au sérieux, je l'aime bien celle-là, je la note. Eric ?
C'est très pataphysicien ça. Moi, j'ai pas de réponse, malheureusement. Je me dirais que en fait, toute utopie devient dictature à un moment donné. Donc, je sais pas s'il serait possible d'intégrer dans les règles d'une utopie son anti-règle qui permette la liberté de créer encore un nouveau monde. Je ne sais pas comment nommer cette.
Tu veux dire un monde que à chaque fois ça puisse, comme les fraisiers, faire des nouveaux fraisiers à côté?
Oui, voilà. Je pense qu'à partir d'un certain, bon, l'être humain, même s'il est augmenté par la technologie, la synchrone, il a malgré tout deux oreilles, deux yeux, une bouche. Ça limite. Je me réfère souvent à un ouvrage qui m'a impressionné quand j'étais jeune, qui s'appelle Des utopies réalisables de Yona Friedman, et qui parle un peu ses limites et de la taille des organisations. À partir d'une certaine taille d'organisation. On tombe inévitablement dans des sociétés pyramidales dans lesquelles il n'y a plus d'entendement, il n'y a plus de toucher, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de voilà, il n'y a plus d'humanité. Donc, moi je dirais quelque chose qui garantisse l'humanité des organisations.
C'est très clair et c'est beau, une forme de taille humaine, de frugalité à taille humaine. Nicolas, ta première mesure.
Alors, moi, c'est assez concret. Enfin, ça existe déjà. Moi, je trouve que c'est les référendums d'initiative citoyenne. Alors, bon, coupler ça peut-être avec des nouvelles technologies pour faire voter plus les gens. Mais moi, je pense qu'il faut faire voter plus. Alors, je pense que les gouvernants, de temps en temps, ils se disent « Ah, on ne va pas les faire voter parce qu'ils ne sont pas capables de prendre des décisions. » Mais moi, je pense que tout le monde est bien capable de prendre des décisions et que ça commence par ça aussi pour refaire confiance à ses citoyens.
Merci pour ce... Oui, c'est vrai que c'est un outil qui existe déjà et qui devrait peut-être être plus employé. La confiance, alors ? la confiance dans l'esprit de tous. Mmh. Anas, tu l'auras compris, je te laisse le mot de la fin, en souhaitant qu'il soit poétique, mais sans mettre trop de pression non plus, ne nous prenons pas au sérieux.
De toute façon, il faut rester soi-même, hein, puisque tous les autres sont déjà pris, disait Oscar Wilde. Moi, je finirais plutôt sur cet égrégore qui a beaucoup circulé dans ses symboliquement, probablement, mais j'aimerais bien y puiser quelques vertus. Et je trouve qu'on a une formidable expérience collectivement qui pourrait contribuer à la richesse de notre système de valeurs en tant que société. Quelle place on donne à l'honnêteté, quelle donne en place à l'entraide. Et j'identifiais la paire aidance comme étant le besoin d'exprimer cette nécessité, donc je serais pour la généraliser, nécessité de venir en aide à un être en détresse, car c'est un acte altruiste qui vient enrichir communément les systèmes de valeurs en tant qu'individu en quête à une vie qui est censée. Donc c'est le partage d'expériences qui est mis à disposition de l'autre, à qui appartient d'y piocher ce que bon lui semble, faisant sens pour nourrir sa réflexion et élever sa spiritualité, donc son humanité. Voilà.
Je te remercie Anas. Spiritualité, lâcher prise, ne pas se prendre au sérieux, humanité. La voix de tous et votre... du peuple et de chacun. Merci pour cette émission de Psychodébat. On se retrouve pour le Psychodébat la semaine prochaine de 18h à 19h. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.
See this kind of psychedelic woman for some nightclub, and I ask her, see. Say, sir, mean say the shoe way you get that kind of tongue bottom. Now, why? Then, cat, mean say that dress way woman they wear, where they see all in leather. Anyway, as for me, as I say, that one, then call her meaning. Going on, he say, that mean all the empty and lipstick them way. Make woman in face shine like silver. And last of all, lick means say woman where you ready at any time for go anywhere. In fact, this one be the baby send my papa. So I will sing some song just now where you all go here. Well, I say hey.